France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département de l'Ain est dans la lumière cette semaine. Inventaire non exhaustif d'initiatives dans ce département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on s'intéresse à une ferme bio qui a été reprise récemment par un collectif. Ils sont 7 exploitants et exploitantes, ce qui permet de réinventer en partie le travail agricole. Coup de fil à la ferme du Champ du Puy dans un instant. Avant cela, la parole est à un organisme national installé dans l'Ain qui aide les associations caritatives à verdir leurs activités. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
La transition écologique concerne les entreprises, les particuliers, l'État, les collectivités, mais aussi le secteur associatif et caritatif, bien sûr. Voici une organisation qui accompagne les associations d'intérêt général pour réduire leur empreinte carbone, entre autres. Bonjour Lorraine Derville.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la déléguée générale du mouvement Tilt, dont le siège national est à Culose, dans l'Ain. Mouvement soutenu et financé par la Fondation de France, notamment. Comment est né ce mouvement? Quel est son point de départ?
Oui, le mouvement est né il y a 3 ans avec un triple constat qui est que aujourd'hui, il n'y a que 3% des financements de la philanthropie qui sont orientés sur des thématiques environnementales, qu'en parallèle, on a un grave problème environnemental, hein, 7 des 9 limites planétaires sont dépassées, et que le troisième constat, le monde associatif a aujourd'hui peu de dispositifs de support, d'accompagnement et d'outils spécialisés pour les appuyer dans leur transformation écologique.
Voilà, le mouvement Tilt, qui porte son nom, j'imagine, en référence à l'expression, hein. Faire tilt, c'est quand on percute, quand on comprend quelque chose.
Tout à fait, l'étoile, le prise de conscience et passage à l'action, c'est clairement ça, puisqu'on est une association au service des associations, et notre mission, c'est donc d'accompagner les acteurs de l'intérêt général dans leur dynamique de transition, de transformation écologique, quelle que soit la cause sur laquelle ils œuvrent.
Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Vous travaillez notamment avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon. En quoi consiste cet accompagnement ?
Donc le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, c'est un dispositif d'accueil pour des personnes en grande difficulté, en grande précarité. C'est aussi de l'insertion pro. Donc ils étaient vraiment tournés sur des actions sociales, d'hébergement, d'alimentation et d'apprentissage de métiers pour retrouver le chemin d'intégration dans une société. Et on les a accompagnés donc à définir une orientation stratégique de prise en considération de leurs impacts environnementaux pour avoir vraiment une feuille de route qui intègre à la fois leurs enjeux sociaux et les limites planétaires dans leur modèle de soutien sociétal.
C'est pas un peu délicat, disons-le, de parler d'environnement à une association qui vient en aide à des personnes en grande pauvreté ?
Eh bien, justement, c'est ce qu'on essaie de faire avec le mouvement Tilt, c'est de décloisonner les silos d'action. En fait, aujourd'hui, on est chacun dans son couloir de nage. On fait des programmes d'insertion, des programmes d'éducation, des programmes de loisirs sportifs, que sais-je. Et en fait, l'environnement est un couloir comme un autre. Il n'y a que 3% des associations en France qui sont sur cette thématique. Nous, avec l'action du mouvement Tilt, on cherche vraiment à décloisonner cette cause pour en faire une sorte de métacause qui infuse partout dans toutes les actions.
Donc, si je vous comprends bien, il ne s'agit pas de changer l'action, mais plutôt la façon d'agir.
Exactement. On ne touche pas à l'objet social de l'association, ça c'est son cœur de métier, mais on l'accompagne pour que finalement son action soit à la fois maximisée sur ses impacts sociétaux, sociaux, en étant dans le respect des limites planétaires.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de changements qui ont été opérés dans des associations suite à votre accompagnement ?
Alors, quand on réalise un bilan carbone, entre autres, ça fait partie de notre accompagnement, on va définir des pans de notre poids écologique sur lesquels on peut avoir des actions de réduction. Donc, par exemple, on peut reprendre le foyer Notre-Dame des sans-abri. Il va y avoir tout un plan d'efficience énergétique des bâtiments avec de l'isolation, changement des outils de chauffage, d'électricité, etc. Ou bien des flottes de véhicules anciennes sur des carburants diesel, etc., qui peuvent passer sur des flottes électriques. Voilà, ça peut être des actions concrètes. Là, je prends l'exemple d'une structure qui est assez grande, mais quand on va dans une plus petite structure, finalement, des fois, c'est pas tant le poids écologique de l'association, mais ensuite la manière dont elle va embarquer ses bénéficiaires dans une dynamique de transformation des pratiques citoyennes dans la vie de tous les jours. Par exemple, une EMJC, c'est un travail aussi d'accompagnement et de changement de mentalité et de conscience vis-à-vis de ces gestes, de ces éco-gestes au quotidien.
Je parlais tout à l'heure de la Fondation de France qui vous finance en partie. Quel est votre modèle économique ? Est-ce que vos formations sont gratuites ?
Oui, alors le parcours est complètement gratuit pour les bénéficiaires associatifs qui candidatent. Tous nos outils, tous les développements qu'on fait, les ressources qu'on met à disposition sont aussi gratuites et open source. Et tout ça, c'est financé finalement par un pot commun d'acteurs de la philanthropie. Donc, vous citiez la Fondation de France, il y a aussi la Fondation Caritas, Citrus, voilà, j'en passe. On est aujourd'hui une douzaine d'acteurs qui sont réunis et on a fait ce pot commun pour financer ces parcours d'accompagnement. Donc, c'est comme ça que le modèle économique marche. On n'a pas de prestations de service en tant que tel, tout est gratuit pour les bénéficiaires associatifs.
Donc vous lancez un appel aujourd'hui, vous avez besoin d'encore plus d'associations à accompagner ?
Tout à fait, il y a encore aujourd'hui trop peu d'associations qui sont engagées dans cette dynamique-là, donc on a des appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés régulièrement. Il y en a un qui est en cours avec des candidatures ouvertes jusqu'à décembre 2025 pour un accompagnement en 2026. Donc n'hésitez pas, vous le trouvez sur notre site web et en nous suivant sur LinkedIn où on donne des publications régulières pour que chaque association qui est intéressée puisse avoir plus d'informations et candidater éventuellement à notre parcours.
Merci beaucoup Lorraine Derville, déléguée générale du mouvement TILT, organisme national basé dans l'Ain. Bonne journée à vous.
Merci Dorothée, à bientôt.
France Inter, carnet de campagne.
Nous voici à Péria, petit village de 150 habitants, pas très loin de Nantua, dans l'Ain, où il n'y a aucun commerce, mais où une ferme propose de la vente directe. Une ferme qui a pris récemment un gros coup de jeune, puisqu'elle a été reprise par 7 personnes. Une bande d'amis qui se sont rencontrés en école d'ingénieurs agronomes à Bordeaux. L'une des 7 est au bout du fil. Bonjour Pauline Couvlair.
Bonjour.
La ferme du Champ du Puy est une exploitation de vaches laitières en bio. Vous avez diversifié la production et vous avez ajouté du maraîchage, des céréales pour faire du pain, de l'apiculture également. Alors, c'est pas un modèle très courant, disons-le, un collectif de jeunes ingénieurs qui reprennent une ferme. Est-ce que pour vous, c'est une reconversion, une bifurcation ou c'était le plan depuis le début ?
C'était à peu près le plan depuis l'école où on s'est rencontrés. Où on a eu tout de suite cette idée de s'installer en collectif. Et après, on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Ils commençaient à avoir quelques exemples. Et on ne s'est pas installé tout de suite après l'école. On a fait un peu nos expériences pour se former, pour construire le projet et jusqu'à ce qu'on trouve cette ferme dans l'Ain. Enfin, c'est plutôt cette ferme qui nous a trouvés. C'est Marie-Annick, la cédante, qui nous a contactés après une annonce sur Terre de Liens. Et du coup, elle nous a contactés pour voir si notre projet pouvait coller à la reprise de sa ferme.
L'association Terre de Liens, je le précise, aide à l'installation de jeunes agriculteurs, agricultrices, pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est l'ambition de cette association.
Tout à fait.
Est-ce que ça a été difficile de vous installer ?
Ça a été assez difficile de trouver une ferme, surtout que nous on cherchait plutôt en Isère et forcément un collectif de 7 jeunes pas issus du milieu agricole qui se présentent sur des fermes, ça a fait peur pour certains agriculteurs. Puis nous on avait un projet en bio et du coup ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et du coup, là, ça a été facilité justement parce que c'est Marie-Annick, la cédante, qui allait vers nous et qui croyait en notre projet. Et après, il y avait aussi le point de vue économique. Du coup, convaincre les banques qu'un projet à 7, ça pouvait marcher sur une ferme de 100 hectares, alors qu'il y avait que 4 personnes sur la ferme et nous, on est 7. Donc voilà, il y avait plusieurs barrières à lever avant de s'installer.
Et vous les avez levées, hein, puisque vous êtes installé désormais. Vous faites de la vente directe, je le disais, à la ferme, du lait, du fromage, des yaourts, de la crème, mais aussi des légumes, de la viande et plus récemment du pain. Est-ce que vous sentez l'intérêt des gens du coin pour votre démarche ?
Oui, bah là, on voit que depuis qu'on est installé, il y a de plus en plus de monde qui sont présents à la ferme, qui sont là tous les soirs, le vendredi de 17h à 19h. Bah parce qu'en fait, on recrée un magasin, une épicerie locale avec tous les produits et c'est des produits de qualité en bio. Et du coup, il y a un intérêt pour ça. Et puis, c'est aussi un lieu de rencontre où les gens peuvent se retrouver, parler. Et d'ailleurs, on fait des événements pour renforcer ce lien sur la ferme, que ce soit un lieu de rencontre.
Et qu'est-ce que ça change de travailler au sein d'un collectif agricole ? Ça permet de partir en week-end, déjà, j'imagine ?
Oui, de partir en week-end. Du coup, nous, justement, on travaille que un week-end par mois, puisqu'on est juste deux d'astreinte. Ça permet aussi de partir en vacances, ce qui n'est pas toujours possible quand on est agriculteur et encore plus quand on a des animaux et donc le travail d'astreinte de s'occuper des animaux. Donc nous, on arrive déjà à partir 4 semaines par an, chacun et chacune en vacances. Ça permet aussi de s'entraider sur des chantiers plus compliqués ou plus répétitifs, d'un point de vue physique et moral. Ça permet aussi de partager la charge financière qui est importante au départ à l'installation. Voilà, donc
c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Le bio traverse une crise sans précédent. Est-ce que vous êtes optimiste quant à son état de santé pour la suite, l'agriculture biologique dans son ensemble ?
Eh ben, s'il y a des personnes qui sont là pour acheter les produits localement, ça va tant qu'on vend pas à la grande distribution ou ça, nous on peut choisir à peu près nos prix. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas des politiques publiques pour aider à la transition, c'est compliqué, et des aides au maintien de l'agriculture biologique parce que ça a un coût de produire en bio forcément, et également faut favoriser l'installation de jeunes parce que il faut plus de paysans et paysannes pour pouvoir faire de l'agriculture biologique.
Voilà, il s'agit de prouver que votre ferme marche bien pour essaimer, pour donner l'exemple finalement.
Oui, nous, bah, du coup, on se fait un plaisir de recevoir des jeunes qui veulent s'installer comme nous en collectif et aussi leur montrer que c'est pas toujours facile et évident. Mais c'est vrai que le collectif, ça peut être une forme de solution pour reprendre des fermes et installer des paysans et des paysannes.
Et c'est bon pour le moral, le collectif. Ça n'est pas rien dans votre métier.
Ah oui, c'est. On le voit tous les jours, l'entraide est super importante. Et puis aussi, ne pas se sentir isolé et seul sur une ferme, parce qu'on est très vite pris par le travail. Et du coup, là, d'être à plusieurs, c'est très important. Et d'autant plus nous, parce qu'on est entre amis, donc c'est encore plus chouette.
La ferme du Champ du Puy, c'est donc à Péria, dans l'Ain. Merci beaucoup, Pauline.
Avec plaisir.
Et bonne continuation. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.